Salut tout le monde, vous êtes sur RTF 95.4 MHz et c'est les Barricades Mystérieuses. Alors, une émission qui est consacrée, vous le savez maintenant, à la musique classique et à la littérature. Alors aujourd'hui, des auteurs très variés, puisque nous irons de Roland de Lassus, vous savez, un musicien du XVIe siècle, et pour le plus ancien, et Thierry Esquèche, qui est encore vivant et qui est né en 1965. Donc il est vivant et pas très vieux. Et voilà, il est un grand compositeur actuel et français. Et puis alors, en littérature, alors, j'ai trouvé un livre très récent et très intéressant de Samuel Fitoussi qui s'appelle « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» Un livre passionnant et dont je recommande la lecture. Et puis, un livre dont on ne sait quoi penser et qui n'y a pas marqué « roman » sur la couverture, mais c'est un livre de Jean Rollin qui s'appelle « Ormuse. Voilà, j'ai trouvé ce livre à la bibliothèque et je me suis dit, je vais en parler à mes chers auditeurs et à mes chères auditrices parce que le détroit d'Ormuz est évidemment encore à l'ordre du jour. Eh bien, il l'était déjà, alors pour d'autres raisons. Alors, pour commencer, nous allons écouter le Stabat Mater. Alors, il y en a beaucoup. Vous savez, c'est une prière très classique. Il y en a beaucoup. Le plus célèbre, c'est celui de Pergolèse. Mais il y en a un de Haydn. Et je vous propose d'écouter donc le début de ce Stabat Mater de Haydn, interprété par le chœur de l'English Concert et des English Concerts sur des instruments authentiques, dirigé par Trevor Pinnock.
Thank you.
Voilà, eh bien, vous avez entendu cet extrait du Stabat Mater de Haydn, donc de Joseph Haydn, joué par Trevor Pinnock, The English Concert, avec des instruments d'époque. Alors, on change pas tellement de lieu et d'atmosphère, mais d'époque, oui. En effet, nous allons entendre une œuvre de Thierry Esquèche. Alors, Thierry Esquèche, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est professeur au SUB de Paris, il a une classe de fugue et d'improvisation, et c'est un des quatre organistes de Notre-Dame de Paris. Il a longtemps été organiste de Saint-Étienne-du-Mont. C'est un type qui a une très grande réputation. Des orchestres américains, des grands orchestres lui ont commandé des œuvres. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas rien. Et je crois qu'il est aussi membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il y a eu à Reims, où l'orgue a été totalement rénové, totalement reconstruit. Alors, je ne vais pas vous lire les spécifications de l'orgue, vous savez, avec les doublettes, les flûtes, les doucennes, les machins, etc. C'est une espèce de patois où on ne comprend absolument rien. Mais je vous propose d'écouter donc une œuvre de Thierry Esquèche, Évocation 4, donc, qui est dédié à Vincent Dubois qui est un autre organiste, et Vincent Dubois qui interprète cette œuvre donc de Thierry Esquèche qui lui est dédiée. Voilà, eh bien, c'était une œuvre de Thierry Esquèche. Donc, Thierry Esquèche qui a dédié cette œuvre à Vincent Dubois, et Vincent Dubois qui l'a interprété sur le grand orgue. Cette œuvre s'appelle Évocation 4, et donc sur le grand orgue, le très grand orgue de la cathédrale de Reims. Et vous savez, cette cathédrale qui a été miraculeusement épargnée pendant les deux guerres mondiales, mais le reste de la ville a été extrêmement abîmé, très détruit, donc à deux reprises, ce qui fait que quand on va à Reims, et on a l'impression un peu bizarre d'une sorte de mélange un peu hétéroclite du point de vue de l'architecture. Enfin voilà, donc c'était cette œuvre de Thierry Esquèche. Alors, premier livre de notre émission, un livre de Samuel Fitoussi, un livre tout récent, aux éditions de l'Observatoire, qui s'appelle « Pourquoi les intellectuels se trompent ?». Et je dois dire que je partageais moi aussi cette interrogation en me disant comment se fait-il quand même que des gens aussi brillants, aussi intelligents que Benny Lévy, que Robert Linard, que Louis Althusser, que tous ces gens-là qui étaient les premiers de la rue d'Ulm, qui étaient des normaliens brillantissimes, et donné dans les pires stupidités du maoïsme, par exemple. C'est une chose, on se dit, mais comment est-ce que ça se fait? Alors, je me suis dit que j'allais peut-être trouver la réponse à cette question quand même bien intrigante. Et Samuel Fitoussi est parti à la recherche d'une explication. Alors, ça donne un livre qui fait 200, pas loin de 300 pages, où il explique, ou il tente d'expliquer pourquoi les intellectuels... Alors, quand on dit les intellectuels, ça peut être aussi bien Jean-Paul Sartre, mais aussi des écrivains, mais aussi des gens moins célèbres. Alors, il commence à faire un florilège de toutes les sottises, voire même des saloperies qu'ont écrites des intellectuels. Alors, j'en ai relevé quelques-unes, je vais vous en lire quelques-unes. Alors, par exemple, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, qui a resté toute sa vie le maître à penser de l'Occident, c'était la formule de Solzhenitsyn. Et alors, par exemple, en octobre 1939, il écrivait « Hitler a dit 100 fois qu'il n'attaquerait pas la France ». En 1954, c'est lui qui dit « Un anticommuniste est un chien, il n'y a rien à ajouter ». Il prédisait que le niveau de vie en URSS serait, dès 1960, de 40% supérieur au niveau de vie français, etc., etc. Il se trompe, mais d'une façon absolument incroyable. Autre délire, c'est le maoïsme, les maolâtres. Et les maolâtres ont été combattus par un sinologue qui parlait très très bien le chinois, qui s'appelait Simon Leys. Et Simon Leys a publié des livres qui démontraient que Mao était un assassin, était une plaie qui s'était rendue coupable de millions et de millions de morts en Chine. Et Simon Leys, son vrai nom c'était Pierre Rixman, du coup a été boycotté, mais par toutes les universités, et pas seulement les universités françaises, mais aussi les universités américaines. Tout ce qu'il a pu faire, c'est trouver un poste en Australie. Voilà. Bon, alors, il y en a comme ça, il y en a plein. J'en ai relevé, je pourrais vous en lire pendant des heures. Alors, les explications que donne Samuel Fitoussi. Eh bien, la première, et celle que je trouve très convaincante, c'est d'une part l'effet de groupe. On préfère se sentir bien dans un groupe et même se tromper avec un groupe plutôt que d'en sortir et d'être attaqué et critiqué par le groupe. Je ne sais plus qui est l'auteur de la formule « Nous préférions nous tromper avec le parti que d'avoir raison contre le parti », mais c'est un peu ça. Et c'est pour cette raison que, par exemple, les communistes ont appuyé le pro-soviétisme du PCF alors qu'ils savaient que... La liberté n'était absolument pas assurée en Union soviétique, que le goulag existait, que toutes ces choses-là. Donc, l'effet de groupe. Il y a aussi, et il en parle assez longuement, des choses toutes simples, comme par exemple les influences dans l'université. Alors, qui recrute dans l'université ? Eh bien, les gens qui sont déjà professeurs. Or, il y avait une époque où, si vous n'étiez pas communiste, vous ne trouviez pas de poste à l'université. Alors, actuellement, ça a changé. Mais actuellement, si vous n'êtes pas woke, si vous n'êtes pas partisan des études de genre, si vous n'êtes pas inquiet sur le post-colonialisme, si vous n'êtes pas intersectionnel, si vous n'êtes pas féministe, si vous n'êtes, etc., eh bien, vous ne trouverez jamais de poste pour la bonne raison que les postes sont délivrés par des gens qui partagent tous la même pensée et qui n'acceptent et qui ne publient et qui ne parlent que des gens qui pensent comme eux. Alors, il y en a plein. Alors, il n'y a pas que des écrivains, il n'y a pas que des intellectuels à proprement parler. Il cite beaucoup Raymond Aron et Jean-Paul Sartre, mais pas seulement. Il cite, par exemple, Virginie Despentes. Virginie Despentes, qui a écrit ceci, je ne résiste pas au plaisir de vous en lire un extrait. Elle parle de l'assassinat des rédacteurs de la rédaction de Charlie Hebdo par les Kouachi. Et voici ce qu'elle écrit. « J'ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes, ceux qui venaient de s'acheter une Kalachnikov au marché noir et avaient décidé à leur façon, la seule qui leur soit accessible, de mourir debout plutôt que vivre à genoux. J'ai aimé aussi ceux-là qui ont fait se lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de les viser au visage. J'ai aimé aussi leur désespoir, leur façon de dire « Vous ne voulez pas de moi, vous ne voulez pas me voir, vous pensez que je vais vivre ma vie accroupie dans un ghetto, eh bien je vais faire irruption dans vos putains de réalités que je hais parce que non seulement elles m'excluent, mais en plus elles me mettent en tôle et me condamnent tous les miens au déshonneur d'une précarité de plomb. » Même chose, toujours la même Virginie Despentes qui approuvait l'assassinat commis par Mohamed Merah, où il y avait, je rappelle, la plus jeune des victimes était une petite fille de 4 ans. Bon, après le pogrom du 7 octobre 2023, on peut lire ceci aussi, le régime israélien est le seul responsable des violences commises. Ça, c'est un type qui s'appelle, c'est un article du Monde qui parle de l'université Harvard, où il y a des gens qui ont écrit ça tranquillement. Alors, il y a aussi, bien sûr, la recherche des causes. Alors, il y a quelques pages savoureuses de Simone de Beauvoir, qui est allée faire un voyage en Chine et qui a trouvé tout très très bien, qui a vu un pays magnifique, prospère, gai, alors que les gens mouraient de faim, et qui admet et qui théorise la nécessité de museler l'opposition, car, dit-elle, la masse du peuple n'est pas apte à comprendre, et donc il ne faudrait pas laisser une opposition contre-révolutionnaire s'emparer du peuple. Alors tout ça est très, très bien théorisé, appuyé sur des travaux sociologiques très nombreux. C'est un boulot vraiment très sérieux. Plusieurs dizaines de références universitaires et qui démontrent, alors en tout cas qui donnent une explication de cette espèce de d'erreur permanente chez les intellectuels. Et alors malheureusement, ce qu'ils nous ont dit nous montre que ça risque de continuer. Quand on voit les gens qui s'accrochent à des arguments pour dire que, par exemple, tel personnage n'est pas antisémite parce qu'il n'a pas encore été condamné, des arguments de ce genre-là. Voilà. Alors, c'est un livre qui est discutable, parfois un peu lourd et un peu indigeste à lire, s'appuyant sur des gens que nous ne connaissons pas forcément, mais très intéressant et malheureusement qui n'est pas porteur d'espoir, parce qu'on ne voit pas que les affaires vont s'arranger, pas du tout. Alors, ça s'appelle « Pourquoi les intellectuels se trompent ?» C'est de Samuel Fitoussi, et c'est aux éditions de l'Olivier. Voilà, c'était une hymne à la Vierge qui s'appelle le psaume pénitentiel, voilà, de Roland de la Suce. Alors 1532-1594, interprété par le Tölzer Knabenchor, ça veut dire le chœur de jeunes garçons de Tölz, dirigé par Gerhard Schmidt-Gaden. Alors, ce qu'il y a de curieux, c'est que Roland de la Suce, et qui était Orlando di Lasso, il se fait appeler parfois, il est mort à Munich. Il a fait la plus grande partie de sa carrière à Munich. Voilà, et il y a une très belle statue de Roland de la Suce dans un jardin public à Munich. Alors, ambiance très différente, je vous propose d'écouter un concerto. Vous savez que Vivaldi a écrit une quantité considérable de concertos. Et Vivaldi a occupé les fonctions de maître de musique d'un endroit qui s'appelait l'Ospedale della Pietà et qui recueillait les orphelines et on leur apprenait la musique, on leur apprenait la danse, on leur apprenait à lire, à écrire, à compter, on leur apprenait des tas de choses. Et puis, celle qui était douée en musique et qui voulait rester, donc elle composait un orchestre qui allait divertir les aristocrates vénitiens. Et puis, les autres ont tâché de les marier quand on leur trouvait des maris. Et c'est le thème d'un film... très joli film qui s'appelle Vivaldi et moi, titre assez un peu bébête, je trouve. Le vrai titre, c'est Primavera, le printemps. Et alors, qui nous apprend donc que Vivaldi a exercé ses fonctions pendant 40 ans et il écrivait de la musique pour ces jeunes filles. Voilà. Alors, elles jouaient, elles donnaient des concerts. Et alors, elles étaient à la tribune et devant elles, il y avait une sorte de grille. Ce qui fait qu'on ne les voyait jamais. Et quand par hasard elles sortaient, eh bien elles avaient des sortes de masques pour ne pas qu'elles excitent la convoitise du public. Voilà, alors je vous propose d'écouter un concerto en sol majeur, interprété par le Venice Baroque Orchestra, que je ne connais pas, et par Giuliano Carmignola, dirigé par Andrea Marcon. Et alors, je crois qu'il a un très très beau violon magnifique un violon d'Amati ou quelque chose comme ça. Voilà ce concerto donc en sol majeur de Vivaldi. Thank you. Voilà, bah c'était le premier mouvement de ce concerto pour violon de Antonio Vivaldi. Alors, il est en sol majeur et vous l'avez entendu en mi mineur, mais c'est normal. C'est le relatif pour ceux que ça amuse et ceux qui n'ont pas trop séché la classe de solfège. Voilà, c'est le relatif de sol majeur. Alors, dernier livre, deuxième livre et dernier livre, donc de Jean Rollin, Ormuz. Ormuz, on en parle beaucoup ces temps-ci, ce détroit d'Ormuz, qui est, on a vu comment c'est fichu, parce qu'à force de voir des cartes avec les bateaux symbolisés par des petits triangles rouges, bleus et verts, etc., et alors on voit rien du tout, parce qu'évidemment ils sont bloqués par les Iraniens, par les Américains, par tout le monde, et c'est le bazar complet. Et alors, donc, Jean Rollin a écrit quelque chose qui n'est pas un roman, mais qui en est un, parce que ce sont des personnages à l'évidence d'invention, mais c'est extrêmement documenté, très précis, c'est presque un manuel de géographie sur ce détroit d'Ormuz. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Alors d'abord, il y a un personnage qui s'appelle Vax, et qui embauche le narrateur pour qu'il l'aide parce que il a prévu, lui, de traverser à la nage le détroit d'Ormuz et de donner de la publicité et de s'arranger avec les États, avec les Émirats et l'Iran qui bordent le détroit d'Ormuz pour que ça leur fasse de la publicité à peu près. Alors évidemment, c'est une tentative. Alors on se demande si cette tentative va aboutir ou pas. Et on ne sait pas finalement à la fin si elle a abouti ou pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que ce sont toutes les démarches, toutes les explorations que le narrateur prépare pour préparer cette traversée à la nage du détroit d'Ormuz. Très précis, très, alors en même temps très drôle, un côté pince sans rire. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Alors c'est absolument documenté, avec les noms des navires, etc. Et on s'aperçoit que c'était déjà un bazar inouï, avec chacun essayant d'accroître son influence sur tel bout. Alors il y a en plus des tas de petits îlots, les uns veulent aller dessus, mais les autres ne veulent pas. Alors on voit les Anglais, on voit aussi les Français, on voit les Américains, on voit les Iraniens, et ils nous parlent déjà de ces vedettes rapides qu'on appelle déjà des moustiques à l'époque, qui sont des vedettes rapides et armées, et qui ne sont pas... Elles sont trop petites pour être repérées par les radars. Voilà. Et alors, donc, on est... Le dernier, la fin de ce livre, on se dit, est-ce qu'il va y arriver ou pas ? Eh bien, oui. Finalement, Vax est parti. Il a, bien sûr, un gilet de sauvetage et tout ce qu'il faut, qui lui a permis de passer quasiment une nuit en mer. Et il est 26-25 de latitude nord et 56-10 de longitude est. Et alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il extrait de son sac étanche un briquet et un paquet de cigarettes. Il en allume une et il parvient même à tirer plusieurs bouffées avant qu'elle ne soit trempée par le clapot. Si la marée monte comme il est possible et souhaitable qu'elle le fasse, peut-être les courants le pousseront-ils mort ou vif jusqu'à l'une ou l'autre des plateformes du champ pétrolifère de Bouka. Voilà la fin de ce livre très amusant, très intéressant et très drôle quelque part, avec une sorte d'humour à froid qui nous change du bazar qui règne actuellement dans le détroit d'Ormuz. Donc Jean Rollin, Ormuz, c'est aux éditions POL. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter quelques-unes des pièces de Giorgi Ligeti pour quintet avant. Le quintet avant, c'est une formation particulière qui comprend un cor, un basson, une clarinette, un hautbois et une flûte. Voilà, donc Ligeti a écrit une dizaine de pièces pour un quintet avant. Alors, donc Marion Ralincourt à la flûte, Hélène Moreau au hautbois, Christian Laborie à la clarinette, Michel Roland au basson et Pierre Rougerie au cor. Voilà, nous écoutons le Mosto Sostenuto e Calmo et, si nous avons le temps, le Prestissimo Minaccioso e Burlesco. J'ajoute que Giorgi Ligeti est mort en 2006. C'est un compositeur de nationalité hongroise, très connu, non seulement en Hongrie, mais je crois dans le monde entier.
Thank you. Thank you.